Bonjour à tous. Donc ce matin, nous terminons notre cycle d'études sur les lettres de Jean. Nous arrivons donc à 3 Jean. Au départ, donc c'était Luc qui devait prêcher ce matin et je le remplace. Et c'est vrai que pour terminer ce cycle, j'étais un peu craintif. Disons que j'avais peur de devoir répéter quelque chose qu'on a déjà entendu plein de fois. Et je me disais, mince, comment est-ce que je vais réussir à tourner ça d'une façon qui soit un petit peu intéressante pour tout le monde. Et puis, quand j'ai relu ce texte, que j'avais lu, effectivement, mais j'avais pas fait attention que le ton de cette dernière lettre est finalement assez différent des précédentes. Et j'ai eu beaucoup de joie à la lire. Alors on va la lire ensemble. Donc je vais la lire dans la traduction du Semeur. Donc c'est une lettre assez courte, fait 15 versets, qui démarre comme la deuxième lettre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Le premier verset est très semblable. Donc par exemple, ça commence. L'ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime bien tout régenter, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. Cher ami, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu, celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. Quant à Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien, et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous nous associons à ce bon témoignage, et tu sais que nous disons la vérité. J'aurais bien des choses à te dire, mais je ne peux pas les confier à l'encre et à la plume. J'espère te voir bientôt, et alors nous nous entretiendrons de vive voix. Que la paix soit avec toi, les amis te saluent. Salue nos amis, chacun personnellement. Dans la deuxième lettre, Jean se présente comme l'ancien, de la même façon qu'ici. Mais dans cette deuxième lettre, et c'est Simon qui nous l'avait fait remarquer, il y a aucun nom n'est mentionné. C'est très, alors c'est pas crypté, mais disons que on ne sait pas quelle est l'église à laquelle Jean écrit. Donc il cache plein de choses. Et dans cette lettre-ci, on voit bien que c'est une lettre qui est pleine de noms. Jean parle de personnes bien identifiées. Et cette lettre, vous l'avez entendu, dans cette lettre, Jean écrit à un ami. Il écrit à un ami qu'il connaît bien, qu'il aime. C'est une lettre, j'ai envie de dire, qui serait presque triviale. Il parle de choses, d'une relation qui est très... voilà. Très personnel. Et pourtant, dans cette façon d'écrire, très pleine d'affection et de proximité, eh bien, il va quand même nous montrer comment la parole de Dieu éclaire nos relations. Vous avez probablement remarqué, mais il y a un mot qui revient à de multiples reprises dans cette lettre. Et ce mot, c'est la vérité. Ce terme est très présent dans les lettres de Jean. Ici, dans un passage qui fait 15 versets, ce mot vérité est répété et utilisé 7 fois. Et on va voir que cette notion de vérité, notre rapport à la vérité, eh bien, c'est vraiment la charnière dans la pensée de Jean. C'est ce qui permet de marquer une différence. De la même façon que la lumière s'oppose aux ténèbres, la vérité s'oppose au mensonge, comme le bien s'oppose au mal. La première personne dont Jean nous parle donc dans ce passage, c'est un homme qui s'appelle Gaius, qui est probablement un responsable de l'église dans laquelle il se trouve. Et Jean commence cette lettre en disant « Mon cher Gaius, que j'aime dans la vérité. » Il a déjà utilisé cette formule dans la deuxième lettre. « Que j'aime dans la vérité. » Alors on va voir un petit peu tout ce que ce mot « vérité » véhicule. On en a déjà souvent parlé. Mais on peut déjà y voir un premier sens. Jean aime ce Gaius dans la vérité, il l'aime d'une façon vraie, pas superficielle, mais réelle, selon ce qui a de la valeur. Il l'aime en cherchant son intérêt. Et évidemment, quand on pense à un amour vrai, on pense à cette description de 1 Corinthiens 13. Où l'amour nous est décrit comme ne cherchant pas son intérêt, mais se réjouissant du bien comme un don, comme quelque chose qui va chercher à faire grandir celui qui est en face de lui. Et donc on peut entendre ce Gaius, je t'aime dans la vérité, dans ce premier sens. Il y a évidemment un deuxième sens qui est un sens plus théologique ou plus spirituel. Parce qu'on le sait que dans la pensée de Jean, la vérité, eh bien, ça fait d'abord référence à Christ, ça fait référence à la parole de Dieu, ça fait référence à la révélation. Je t'aime selon ce que me dit la parole de Dieu de toi. Je t'aime à cause du lien spirituel qui nous unit. Dans la prédication sur le baptême de Yann, il y a alors c'était la semaine dernière, il y a 15 jours, Yann nous a rappelé cette prière de Jésus, hein, de Jean 17, où Jésus prie pour notre unité qui est réelle, même si évidemment pas encore manifestée dans sa plénitude. Cette unité, elle est réelle et elle dépasse ce que nous sommes. Elle dépasse nos affinités humaines. Elle nous dit que nous sommes frères, nous sommes sœurs. Et c'est ce que nous vivons dans l'Église. On est tous ici issus de milieux différents, d'arrière-plans différents, de pays différents, couleurs de peau différentes, et nous sommes frères et sœurs. L'unité qui nous rassemble, ce lien qui existe entre nous, nous est donné par le Christ, et nous nous aimons dans cette vérité-là. C'est cet amour-là qui existe entre nous, et c'est cet amour que Jean met en avant quand il écrit à son ami Gaius. Il continue avec un verset, moi, qui m'a amusé, parce que donc il lui dit, en gros, il lui dit « Porte-toi bien. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé physique et spirituelle. » Ça a un petit côté, ça ressemble au vœu de fin d'année. Hein, je te souhaite le meilleur, etc., etc. On pourrait se dire bon, ok, c'est comme une espèce de formulation passe-partout. Et je pense que dans ce contexte, c'est intéressant de remarquer justement que cette formulation s'inscrit dans une vie de tous les jours. Jean est en train de souhaiter à son ami que ça aille bien dans sa vie, que ça aille bien dans son travail, que ça aille bien dans ses relations, que ça se passe bien dans sa santé, qu'il ait une bonne santé, que ça se passe bien dans sa relation à Dieu, dans sa vie dans son ensemble, dans toutes les composantes de sa vie. Jean lui souhaite que ça aille bien pour lui. Et cette mise en avant de la vie de tous les jours, ça m'a paru intéressant parce que moi, ça m'a fait penser à il y a dans certains passages de l'Écriture, on met en avant la radicalité du message, de l'engagement. Quand on pense au sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Ne vous préoccupez pas du manger, du boire, de vos habits. Préoccupez-vous du royaume de Dieu. » Il y a une radicalité dans ce discours-là, d'accord, où c'est la relation à Dieu qui est vraiment mise en avant et qui prime. Ici, finalement, Jean redescend sur terre. Et la radicalité s'exprime d'une autre façon. S'exprime pas comme étant une rupture radicale avec le monde, mais s'exprime comme une présence dans le monde. Elle s'exprime dans un équilibre de la vie de tous les jours que nous avons à vivre. Chacun d'entre nous, on ne vit pas en permanence sur la montagne. On n'est pas en permanence sur le Sinaï en train de parler à Dieu et de. On est aussi dans la vallée à vivre notre travail et notre vie de tous les jours. Et nous avons à trouver cet équilibre. Cet équilibre. Et Dieu a des choses à nous dire dans cet équilibre. Et quand Jean dit, voilà, je veux que ta vie soit bonne dans tous ces domaines-là. Et on va voir comment la radicalité du message vient s'inscrire dans cette trivialité, dans cette vie de tous les jours. Et il nous dit, voilà, Gaius, je suis dans la joie parce que tu es attaché à la vérité et tu vis selon cette vérité. Attaché à la vérité. La vérité, c'est aussi notre rapport au monde. C'est ce qui nous permet de juger de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui a du prix et de ce qui n'en a pas. Et évidemment, le monde propose ses vérités. Et c'est facile de s'attacher à la vérité du monde, de s'attacher à ce qui a de la valeur aux yeux de notre société, et d'oublier ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Jean, lui, nous dit qu'il met toute sa joie quand un de ses enfants vit selon la vérité, et selon la vérité qui est révélée dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un met en pratique ce que la parole de Dieu dit être vraie. Et ce texte nous dit que la façon dont Jean voit ça chez Gaius, c'est la façon dont il accueille. Dont il accueille les prédicateurs et les missionnaires qui sont de passage. Il y a quelques dimanches, c'est Tahar qui nous a parlé de l'importance de l'hospitalité. Et c'est ce que Gaius pratique. Il accueille, il ouvre sa maison à ceux qui viennent prêcher la bonne nouvelle. Il les accueille et il leur témoigne de l'amour. Et Jean nous dit, voilà, tu as reconnu comme tes frères des gens qui t'étaient étrangers. Des gens qui t'étaient que tu ne connaissais pas, avec lesquels tu n'avais pas de relation, mais parce qu'ils prêchaient le même Christ que celui que tu sers, eh bien, tu les as reconnus comme tes frères, tu les as accueillis chez toi, tu as été solidaire de leur travail, solidaire de leur ministère. Et cette solidarité, eh bien, elle forme une, c'est ce qui forme une communauté. Alors évidemment, en France, en ce moment, enfin, le communautarisme a jamais bonne presse. Hein, le fait de se reconnaître appartenir à un groupe différent du groupe national, c'est vécu comme une radicalité, comme une séparation potentiellement dangereuse pour l'unité du corps national. Ça peut l'être, mais c'est aussi oublier que dans la pensée chrétienne, l'amour n'est pas limité à ceux qui appartiennent à la communauté. L'amour est en direction de tous les hommes, quel que soit leur pays, quelle que soit leur religion, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, eh bien, nous sommes appelés à aimer chaque humain que nous croisons, à reconnaître en lui, pas nécessairement un frère, mais à reconnaître en lui un sujet de l'amour de Dieu. Et cette façon donc de présenter la communauté, la solidarité, eh bien, c'est la racine de notre façon d'aborder la mission. Depuis le début de l'Église, chaque Église se sent solidaire du travail missionnaire accompli par d'autres, accompli en son sein et aussi accompli à l'extérieur. Dans ce passage, Jean encourage Gaius à soutenir les missionnaires qui vont repartir et de se sentir le devoir de les soutenir, parce qu'ainsi, il nous dit que nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Jean nous parle dans cette lettre d'une deuxième personne, et j'avoue que en lisant ce passage-là, ça, j'ai pas pu vraiment m'empêcher de sourire. Donc, parce que ce Diotref dont Jean parle, qui manifestement se comporte mal, en lisant ça, je me suis dit, bon, rien ne change. Les hommes restent les mêmes. Et les misères que nous avons pu vivre dans certaines de nos églises à l'heure actuelle, eh bien, elles étaient les mêmes il y a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, eh bien, il y avait aussi des personnes dans l'église qui cherchaient le pouvoir, qui en abusaient, qui étaient une plaie pour ceux qui devaient les côtoyer dans l'Église. Et ce Diotref, eh bien, est ce genre de personne. Jean ne met pas en avant ici des erreurs théologiques, mais il met en avant un mauvais comportement dans l'Église. Et avec nos mots d'aujourd'hui, on pourrait dire une forme de dérive sectaire dans son attitude. Donc ce Diotref est manifestement un des responsables de l'Église. Et Jean nous dit, ben voilà, c'est quelqu'un qui est autoritaire, il aime tout régenter, diriger chaque partie de la vie de l'Église. Il est agressif, donc il parle mal de ceux qui viennent de l'extérieur, au point même, donc il n'a pas lu la lettre que Jean a écrite, il a empêché qu'elle soit lue dans l'Église. Donc il dit des mauvaises choses sur lui. Il a tendance à isoler l'Église, d'accord, puisqu'il refuse de recevoir ceux qui viennent de l'extérieur. Donc il refuse l'autorité de Jean qui est à l'extérieur. Et il chasse même ceux qui veulent accueillir ceux qui viennent d'ailleurs. Donc une volonté de refermer l'Église, de garder l'autorité et l'Église sous sa coupe à lui seulement, sans reconnaître aucune autorité de l'extérieur. Ça ressemble beaucoup à une, un gourou, hein, une façon comme ça de fermer. Et au-delà de la personne, alors bon, ça, disons que ce genre de description peut nous aider à identifier ce genre de comportement, si jamais nous avons à y faire face. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette description du problème de Diotrephe, c'est la façon dont Jean se propose de régler le problème. Jean, qui est donc le apôtre de Jésus-Christ, un des plus proches amis de Jésus, le dernier apôtre vivant, devait avoir une autorité qui paraît difficile à égaler. Et pourtant, Jean ne se propose pas d'arriver en disant, il ne va pas arriver en disant, je suis apôtre de Jésus, et maintenant on va arrêter les bêtises, et on va faire comme j'ai dit. C'est pas ça qu'il propose. Il nous dit, voilà, je viendrai, et je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Jean propose de régler cette situation par la vérité, en mettant en lumière le comportement de Diotrephe. Il nous dit qu'il veut rendre attentifs, il veut rendre les membres de l'Église attentifs à cette façon de fonctionner. Il veut que les membres réfléchissent et qu'ils voient ce qu'il y a de mauvais dans le comportement de ce Diotrephe, qu'ils le comprennent par eux-mêmes et que ce mal qui pouvait être caché pour certains devienne visible. Et je trouve que c'est une façon de faire qui m'encourage. Parce qu'elle montre que dans l'Église, c'est la vérité qui nous permet de sortir des problèmes. C'est en se tournant vers ce que Dieu nous montre. C'est en faisant aussi confiance dans le travail que l'Esprit et que Dieu accomplit dans chacun d'entre nous, que les problèmes se résolvent et que finalement le bien soit manifesté et choisi. La dernière personne dont parle Jean, c'est un certain Démétrius. Et j'ai eu un peu de mal à voir qu'est-ce qu'on pouvait bien retirer de cette description. Démétrius, tout le monde n'en dit que du bien. Bon. Un mec sympa, manifestement, qui fait l'unanimité autour de lui. Jean dit quand même quelque chose qui est plus difficile à comprendre. Il nous dit « La vérité elle-même témoigne en sa faveur ». Alors je me suis un peu gratté la tête et réfléchi pour arriver à comprendre qu'est-ce que Jean pouvait bien vouloir dire par « La vérité témoigne en sa faveur ». Alors je suis pas sûr d'avoir saisi le sens de ce que Jean veut dire par là. Bon, peut-être que le témoignage de Démétrius était conforme à la vérité. C'est peut-être ça que Jean veut dire. Ou peut-être que par son témoignage, beaucoup étaient venus à la foi. Je ne sais pas. Bon. Mais ce que j'ai quand même trouvé intéressant, c'est que donc Jean est en train de faire une recommandation. D'accord ? Il est en train de recommander ce Démétrius à Gaius. Alors peut-être que Démétrius part de l'église où Jean se trouve et va dans l'église où est Gaius, et il est en train de le recommander en disant, bon, ben voilà, c'est quelqu'un de bien. Et j'ai trouvé intéressant que Jean, une fois de plus, apôtre de Christ, ne dise pas, ce Démétrius, je vois en lui que c'est quelqu'un de bien. C'est pas comme ça qu'il dit. Il dit, les autres disent que c'est quelqu'un de bien. Et la parole elle-même, donc son témoignage, d'une façon ou d'une autre, montre que c'est quelqu'un de bien. Alors à cause de ça, eh bien, moi aussi, Je m'associe à ce témoignage et je te le donne à toi. Et tu sais que je dis la vérité. Jean, là aussi, met en avant, non pas sa propre autorité, mais met en avant le fonctionnement de l'Église, les autres croyants, met en avant ce que la personne elle-même témoigne et dit. Donc c'est ça que Jean met en avant. Donc un passage assez court qui nous parle de la vérité. Et au bout du compte, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai dans nos vies? Qu'est-ce qui est vrai dans l'Église? Eh bien, Jean nous dit que ce qui est vrai, c'est que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Ce qui est vrai, c'est que Dieu nous connaît, chacun personnellement. Jean termine sa lettre en disant « Salut nos amis, chacun d'eux, personnellement. » Jean connaissait ceux à qui il s'adressait. Dieu connaît chacun d'entre nous. Et il parle à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, il nous donne un chemin, il nous donne un défi de vivre, de nous attacher à la vérité et de vivre selon elle. Il nous propose de croire et de vivre cette vérité du salut, cette vérité de l'amour, de la vivre avec nos amis, mais de la vivre aussi dans notre vie de tous les jours. Et puis cette vérité, elle modèle nos relations, elle nous pousse à voir le bien chez nos frères et elle nous pousse à l'imiter. Elle nous permet aussi de voir le mal et de le rejeter. Alors, ce que je souhaite pour notre Église, eh bien, c'est ça, que nous puissions nous aimer dans la vérité. Et je conclus comme Jean, que la paix soit avec vous.